Nous poursuivons ce matin notre série de prédications intitulée « Jésus revient ». Jésus revient. Je rappelle rapidement le titre des quatre premiers épisodes, sachant que les épisodes 1, 3 et 4 sont disponibles en ligne sur notre site internet. Le premier épisode s'intitulait « Le retour de Jésus ». Le second, « Les signes du retour de Jésus ». Le troisième épisode répondait à la question suivante, « L'Église sera-t-elle enlevée avant la grande tribulation ?» Et le quatrième épisode à cette autre question, « À quoi faut-il s'attendre concernant Israël ?» L'épisode d'aujourd'hui, donc le numéro 5, s'intitule « Le règne de Christ ». En début de semaine, je vous ai invité par mail à lire les sept visions de l'aboutissement de l'histoire, visions reçues par l'apôtre Jean et relatées dans les chapitres 19, 20 et 21 du livre de l'Apocalypse. Nous allons nous concentrer ce matin sur l'interprétation des visions 4 et 5 qui se trouvent dans les 10 premiers versets du chapitre 20. Je vous invite à les lire maintenant. Donc Apocalypse chapitre 20 et nous commençons au premier verset. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité. Les grandes lignes de ces deux visions sont plutôt simples, claires. Satan est enchaîné pour une période longue, durant laquelle Christ et les siens règnent. À la fin de cette longue période, Satan est relâché pour un court moment avant d'être définitivement condamné. La question plus épineuse est la suivante. Est-ce que les événements décrits dans ces versets relèvent uniquement du pas encore, c'est-à-dire de l'avenir, du futur? Ou bien est-ce qu'ils relèvent du déjà et du pas encore? C'est-à-dire qu'ils font référence à la fois à des événements ayant déjà eu lieu et à d'autres n'ayant pas encore eu lieu. Les deux points de vue coexistent chez les chrétiens, évangéliques. De mon côté, il me semble que ces versets parlent du déjà et du pas encore. Et ce matin, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible pourquoi je crois cela. Je vais le faire de la manière suivante. Tout d'abord, en situant ces versets dans leur contexte immédiat. Grand 1, Apocalypse 20, à la lumière de l'Apocalypse. Ensuite, en situant ces versets dans leur contexte néo-testamentaire. Ce sera la deuxième partie, Apocalypse 20, à la lumière du Nouveau Testament. Premièrement donc, Apocalypse 20 à la lumière de l'Apocalypse. Ceux qui estiment que les visions 4 et 5 évoquent uniquement des événements futurs partent du principe que les événements décrits dans le chapitre 20 suivent chronologiquement les événements décrits dans le chapitre 19. L'événement majeur du chapitre 19 étant le retour de Christ, ils en déduisent que les événements du chapitre 20 auront lieu après le retour de Christ. Mais cette lecture chronologique est-elle justifiée? Elle est sans aucun doute le reflet de la structure de pensée du lecteur occidental contemporain. Mais est-elle le reflet de la structure de pensée de l'auteur biblique? L'apôtre Jean avait-il une structure de pensée chronologique? Les auteurs bibliques en général, l'apôtre Jean en particulier, développent plutôt leur pensée thématiquement, théologiquement. Et s'il fallait représenter schématiquement la progression de leur pensée, une spirale ou une suite de boucles conviendrait mieux qu'une ligne droite. Et le lecteur contemporain dont la pensée est linéaire doit absolument connaître cette différence et en tenir compte. En l'occurrence, et pour en revenir à notre texte, le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse n'est pas la suite chronologique du chapitre 19. Le chapitre 20 revient plus loin en arrière dans l'histoire pour finalement aboutir au même point de l'histoire. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? Premièrement, le parallélisme avec le chapitre 12. Les chapitres 20 et 12 ont un langage commun. Il y est d'une part question de la même façon du diable, appelé dans les deux textes le serpent ancien, chapitre 20, verset 2, chapitre 12, verset 9, et il y est d'autre part fait référence à sa liberté relative pour un peu de temps, chapitre 20, verset 13, chapitre 12, verset 12. Or, de manière indiscutable, le chapitre 12 ne suit pas chronologiquement le chapitre 11. Le chapitre 11 évoque le témoignage de l'Église dans le monde, alors que le chapitre 12 évoque sans ambiguïté la première venue de Jésus-Christ. Il y est même question de sa naissance. Puisque l'auteur biblique, de manière volontaire, inspirée, établit ce parallélisme entre les chapitres 20 et 12, nous devons en tenir compte. Tout comme le chapitre 12 ne suit pas chronologiquement le chapitre 11, le chapitre 20 ne suit pas chronologiquement le chapitre 19. Et tout comme le chapitre 12 nous parle de la première venue de Jésus-Christ, ainsi en est-il également du chapitre 20, nous y reviendrons. Le deuxième argument qui me pousse à affirmer que le chapitre 20 aboutit au même point de l'histoire que le chapitre 19, ce sont les allusions et citations aux prophéties d'Ézéchiel. En effet, le verset 17 du chapitre 19 du livre de l'Apocalypse se réfère au chapitre 39, versets 4 et 17 à 20 du livre du prophète Ézéchiel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Il est question ici d'un repas de jugement, une parodie macabre du repas messianique. Et de la même manière, dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, regardez les versets 7 à 10, « Le jugement de Dieu sur la révolte finale, celle de Gog et Magog, renvoie aux paroles du prophète Ézéchiel, qui se trouve dans les mêmes chapitres 38 et 39 de son livre. » Je cite simplement un exemple, le verset 6, « du chapitre 39, « J'enverrai le feu sur Magog et sur tous ceux qui vivent dans la sécurité sur les îles des mers, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Ainsi, les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse aboutissent tous deux au même point de l'histoire, le point final de l'histoire actuelle, le jugement annoncé par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39 de son livre. Ces deux arguments, le parallélisme avec le chapitre 12 et les citations du prophète Ézéchiel, chapitre 38 et 39, montrent bien, me semble-t-il, que le chapitre 20 ne suit pas chronologiquement le chapitre 19. Il s'agit bien ici d'une boucle qui repart en arrière pour arriver au même point plutôt que d'une ligne droite. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi ? Pourquoi l'auteur nous propose-t-il ce retour en arrière ? Si sa logique n'est pas chronologique, quelle est-elle ? Il me semble qu'elle est théologique. L'auteur nous propose un autre éclairage, un autre point de vue sur la même histoire. Il nous donne le point de vue de Dieu sur les événements, un point de vue qui dépasse les apparences. En effet, les chapitres qui précèdent pourraient donner l'impression que le diable a sur cette terre toute liberté pour agir. Mais telle n'est pas la réalité. Le chapitre 20 nous révèle que le diable est limité. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas aller au-delà des limites qui lui sont imposées. Il ne peut pas aller au-delà de la chaîne qui le retient. Si telle est bien la logique de l'auteur, alors il faut comprendre que la quatrième vision se réfère à la première venue de Jésus-Christ et en particulier à son œuvre accomplie à la croix. Il faut également comprendre que le règne de Christ dans la cinquième vision est céleste et que ceux qui règnent avec lui sont ceux qui ont placé leur foi en lui et qui sont aujourd'hui auprès de lui. Est-ce que cette interprétation est confirmée par le Nouveau Testament ? Voyons cela ensemble maintenant. Apocalypse 20, à la lumière du Nouveau Testament. Que nous apprennent les textes du Nouveau Testament à propos de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix ? Ils nous apprennent premièrement que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix a lié, expulsé, désarmé, humilié Satan. En signe annonciateur de ce qu'il va accomplir à la croix, Jésus chasse des démons. Et en Matthieu 12, chapitre 12, verset 29, Jésus dit ceci : Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas, tout d'abord, ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. C'est le même verbe grec, déo, qui est utilisé ici par Jésus et en Apocalypse 20, verset 2. Je vous lis une autre parole de Jésus, rapportée cette fois-ci par l'apôtre Jean. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 31 à 33. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La mort de Jésus à la croix est l'événement qui juge le monde et qui expulse le diable, le précipite dans l'abîme. De son côté, l'apôtre Paul écrit ceci aux chrétiens de Colosse. « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. La mort de Jésus à la croix est l'événement qui désarme le diable, qui l'humilie. À la croix, Jésus a lié Satan. Il l'a expulsé, désarmé, humilié. Nous ne devons jamais oublier cette réalité théologique, même si les apparences semblent dire l'inverse. Lorsque dans sa quatrième vision, rapportée au chapitre 20 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle de l'enchaînement du diable, de sa précipitation dans l'abîme, c'est à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qu'il fait allusion. Deuxièmement, les textes du Nouveau Testament nous disent que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est le début de son règne. Lorsque le brigand sur la croix implore Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Que lui répond Jésus ? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Autrement dit, le règne de Christ débute ce jour-là et le brigand repentant va y prendre part. Jésus ressuscité confirme cela à ses disciples en leur disant « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » L'apôtre Paul également abonde dans ce sens. Je vous lis ce qu'il écrit aux chrétiens de Philippe. « Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Christ règne. Et son règne a débuté à la croix. C'est encore une réalité théologique que nous ne devons pas oublier, même si, encore une fois, les apparences semblent dire l'inverse. Ainsi, lorsque dans sa cinquième vision, rapportée au chapitre 20 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle du règne de Christ, souvenons-nous que celui-ci a commencé il y a 2000 ans. J'aimerais répondre encore à une question pour ce matin. Dans cette perspective, qui sont ceux qui règnent avec Christ ? D'après Apocalypse 20, ce sont ceux qui ont eu part à la première résurrection. Or, qui, d'après le Nouveau Testament, a eu part à la première résurrection ? L'apôtre Jean, toujours lui, répond à cette question. Regardez avec moi ce qu'il écrit. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. Ceux qui ont placé leur foi dans les paroles de Jésus sont déjà passés de la mort à la vie. Ils ont déjà eu part à la première résurrection, qui est une résurrection spirituelle, symbolisée par le baptême. Ainsi, en Apocalypse 20, ceux qui règnent avec Christ, ce sont les chrétiens décédés. Leur règne est céleste, et comme le souligne le verset 4 qui mentionne des âmes, ils attendent encore la seconde résurrection, la résurrection des corps. La seconde mort, en revanche, qui est spirituelle, n'a aucune prise sur eux. Je conclus. À la lumière de l'Apocalypse et du Nouveau Testament, nous pouvons avancer que les versets 1 à 6 du chapitre 20 de l'Apocalypse se réfèrent au déjà, à la première venue de Jésus sur cette terre, à son œuvre sur la croix. Les versets 7 à 10 se réfèrent quant à eux au pas encore, aux derniers temps qui connaîtront le déchaînement du mal pour un court moment avant que Dieu y mette un terme définitif. La force de cette interprétation, qui est solidement ancrée dans l'histoire de l'Église comme dans les textes bibliques, est de nous rappeler des vérités théologiques fondamentales. Le diable est lié. Il ne peut pas agir comme bon lui semble sur cette terre. Christ règne. Il a déjà reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui sont décédés, comme le brigand sur la croix, règnent d'ores et déjà avec Christ en attendant la résurrection des corps. Je vous propose de prendre quelques instants pour méditer ces trois vérités théologiques, pour les repasser dans votre cœur et pour louer Dieu.